place. À l'endroit, je crois, d'aujourd'hui. C'est bien ça. Au même endroit, oui. Dans notre petite chapelle. À 8h, chapitre des coulpes. Puis après le cours. Puis après, j'irai saluer le cardinal. Puis je reviendrai le soir. Alors on aura le soir, à 20h ici, conférence. Et on demandera à ceux qui ne vont pas à la conférence de commencer leur sainte. C'est-à-dire ceux qui, pratiquement la conférence étant essentiellement pour les retraitants, par surabondance pour les autres, demain leur sainte commencera à 20h. Vous serez libre. Laissera libre, vous demanderez au Saint-Esprit ce qu'il vaut mieux faire. Il y en aura toujours quelques-uns, sûrement qui y seront. Alors, ce sera très bien comme ça. J'ai mis des coups.
Est-ce qu'il y a des proclamations positives?
Non, on ne va pas faire ça, on n'a pas le temps. Comme on présuppose que tous sont parfaits, ou tendent vers la perfection. Le point de vue positif, je rectifierai si c'est trop négatif. Parce que, point de vue positif, je veux bien le faire. C'est vrai que ça, très souvent, bon, ils tendent tous, on sait bien, ceux qui vont faire profession, ils tendent tous vers la sainteté. Ils ont d'énormes défauts, comme tout le monde sait. Mais c'est l'envers d'énormes qualités encore plus grandes. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Je vous recommande parce qu'on a téléphoné ce matin à une sœur contemplative d'une chose tragique qui est arrivée tout près de Paris, à Châtillon. Hier, il y a eu, avant-hier, un rapt. Dessus, on l'a brûlé en face de la maison de l'enfant, des parents, d'un follow. Elle l'a brûlé, je crois que c'était dans la nuit, durant la nuit. Alors, vous voyez, pour les parents, et puis tout le climat que vous avez. Une personne qui a téléphoné du reste. De 13 ans. Et ça a brûlé en face de sa fenêtre. Là, vous voyez, c'est ces espèces de contrastes qu'on voit actuellement. Alors, je crois qu'on doit prier. Puis, ça me semble des signes tellement sataniques, ces choses-là. Tellement du démon. Remarqué cette année-ci, la préparation de la Pentecôte, c'est pour vous, spécialement. Je sais pas ce qui arrivera. Mais toutes ces saints martyrs, Saint-Jodard, on avait en plus un Potin. Et puis la petite sainte qu'on aime à côté de Saint-Potin. Les martyrs de Lyon. C'est impressionnant de voir comment l'Esprit Saint veut nous mettre tout proche de ce grand mystère de l'offrande de notre vie. J'étais à Curière dimanche et Sœur Marie m'a dit qu'elle avait vu une religieuse supérieure d'une congrégation canadienne revenant de Rome, puisqu'il y avait une grande réunion, je sais pas, de toutes les supérieures majeures, avec l'audience du pape, Et cette sœur supérieure, vénérable mère, en revenant, disait que toutes, elles avaient eu ce sens qu'il fallait regarder avec beaucoup d'attention la théologie du martyr et s'y préparer. Parce que cette vénérable mère disait que dans sa congrégation, il y avait pas mal de sœurs qui avaient disparu et qu'on savait qu'elles avaient été massacrées. C'est vraiment un des actes les plus importants de notre vie. Il y en aura un autre quand on sera tout près de la mort ou quand on sera martyr. Autrement, c'est un acte très important et c'est un peu un martyr. Puisque vous savez bien, la vie religieuse, dans l'Église, c'est la lignée des martyrs. Des martyrs non sanglants, c'est sûr, parce que il n'y a pas encore beaucoup qui sont tués ensanglantés par leurs frères. Ils sont quelquefois flagellés par leurs frères, mais ça, ensanglantés, pas encore, heureusement. Mais la vie religieuse implique l'offrande à Dieu de notre volonté propre. Et pour saint Thomas, c'est le logos le plus parfait. Offrir à Dieu sa volonté propre, lui donner. Je sais très bien que on essaie de la reprendre de temps en temps. Hein. C'est pas bien. Et ça peut être pour nous l'occasion apparaît cette année-ci avec nos frères qui feront profession perpétuelle de tous renouveler ça et avec un don beaucoup plus fort. La profession perpétuelle doit nous faire vivre ce que Jésus lui-même nous dit. Le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Or, il faut bien reconnaître, on est tous bien obligés de le reconnaître, hein. Le grain de blé tombé en terre, beaucoup de peine de mourir. Il s'agite. Il a beaucoup de peine de mourir. Et pourtant, il faut qu'il meure. On l'a promis. Alors soyons fidèles à notre promesse. Par nos voeux, on promet que le grain tombé en terre meurt. Et on veut qu'il meure dans cette volonté d'amour. C'est l'Esprit Saint qui doit réaliser au plus intime de notre cœur cet holocauste d'amour. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est mourir à notre volonté propre. C'est ce qu'il y a de plus difficile. La mort physique est peu de choses à côté de cette mort intérieure. Parce que c'est difficile surtout dans des tas de petites choses, voyez. Je crois qu'on est tous prêts à faire des actes héroïques. Tous prêts à faire des actes héroïques. Mais un acte héroïque dans sa vie, ça, on veut bien. Aller au Texas, un acte héroïque. Aller à Taipei, un acte héroïque. Express, pas la Providence exprès, mais il y a eu pour actuer des actes. Aller en Hollande, un acte héroïque. C'est vrai, ça fait partie de tous ces actes héroïques qu'on est prêt à faire, ça je crois. On est tous prêts à faire ça. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est l'acte héroïque caché de chaque jour, de chaque matin, quand on est fatigué et que le réveil sonne. C'est un acte héroïque, se lever le matin quand on est fatigué, et qu'on aurait bien envie de continuer de dormir, et si on n'était pas religieux, on continuerait de dormir, c'est bien évident. Comme on est religieux, on se lève la corde au cou. C'est notre liturgie du matin. Et aussi, ça y est, cette journée est donnée au Seigneur, et on veut tout donner au Seigneur. Et pas seulement lever, c'est après tant de raisons. Toute la journée qui doit y passer. Et chaque fois une fidélité à notre petit règlement de vie, le règlement de vie de tous, et le nôtre, hein, n'oubliez pas. Qu'il faut se faire à soi-même un règlement de vie et le soumettre au supérieur pour que tout soit donné. C'est trop facile autrement de rattraper. C'est un moyen merveilleux, cela. Alors évidemment, il faut le faire avec souplesse. On ne va pas le faire d'une façon trop rigide parce que ça n'irait pas. Mais il y a un règlement. règlement de vie auquel on doit tenir, c'est celui de la communauté. C'est l'obéissance de toute la journée, heure par heure, on donne tout. Et quand il y a des possibilités de choisir, on le fait en dépendance de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir un règlement de vie reconnu par un supérieur. Parce que si c'est reconnu par un supérieur, c'est reconnu par l'autorité de Dieu. Et c'est reconnu par le supérieur que Dieu nous a donné. L'autorité dans la vie religieuse, c'est une autorité divine. C'est le privilège que nous avons. Dans les familles, ce n'est pas si immédiatement divin. C'est divin, mais ce n'est pas immédiatement. Tandis que dans la vie religieuse, c'est immédiatement divin. C'est vraiment l'envoyé de Dieu pour nous. Et il faut le considérer comme ça. Autrement, on ne vit pas suffisamment de ce que représente notre vie religieuse. Je crois que quand on se donne à Dieu, et on peut répéter ce don tous les jours, on doit le répéter. Mais quand on le donne, quand on fait ses vœux perpétuels, quand on se donne à Dieu de cette manière officielle, reconnue par l'Église, c'est sûrement un acte héroïque que Jésus aime, que Marie aime. Et c'est analogue au martyr. C'est plus caché. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand on le fait ensemble, vous voyez. Alors, c'est tout l'ensemble qui a cette héroïcité de cet acte. Mais c'est quand même tous, c'est quand même chacun en particulier, pour Jésus. Et je crois qu'il faut s'y préparer en demandant à la Vierge Marie de faire que cet acte puisse possession de toute notre vie. On peut le faire, Dieu peut faire que ce soit comme ça. Et que toute notre vie soit offerte, brûlée, par amour, pour Jésus, pour le glorifier et pour sauver notre monde d'aujourd'hui. Je voudrais avec vous, puisque nous aurons quelques petites conférences pour préparer cette grande journée et cet acte si important. Ce qu'on disait tout à l'heure, à la profession on se donne, pour l'ordination on reçoit, c'est très juste. On se donne, et on se donne avec la meilleure bonne volonté qu'on peut. Suppliant d'être fidèle à cet acte-là. Je voudrais avec vous essayer de regarder nos voeux dans la lumière du sacerdoce de Jésus. Il y a de multiples façons qu'on peut regarder les voeux de religion. Et c'est très vrai. C'est quelque chose à la fois très simple et très complexe. Les voeux de religion, vous voyez, c'est à la fois une arme contre les trois concupiscences. Et c'est vrai, c'est une arme. Et c'est vraiment contre les trois concupiscences. Vous voyez tout de suite, le vœu de pauvreté, c'est cette espèce de concupiscence des yeux, la grosse vanité. Ça ne veut pas dire parce qu'on a fait le vœu de pauvreté, il n'y a plus de danger, hein. Ça repousse. Et ça continuera de repousser. Parce que le sauvageon, il a une vie profonde. Hein. Le vœu de chasteté, c'est par rapport à la concupiscence de la chair, c'est bien évident. Et le vœu d'obéissance contre l'orgueil. C'est ce qu'il y a si grand dans l'obéissance, c'est contre l'orgueil. C'est pour ça qu'on n'aime pas d'obéir. très vrai, on n'aime pas d'obéir. C'est normal. Et il leur a dit, on n'aime pas d'obéir, puisque mes supérieurs sont complètement en dessous de leur tâche. Mes supérieurs en dessous de leur tâche, qu'est-ce que ça veut dire? On n'obéit pas à un homme, on n'obéit pas à une femme. On obéit à des envoyés de Dieu pour nous. Je t'ai déjà rappelé cette histoire qui m'a beaucoup frappé, moi, du Père Sertilange. Il faut se rappeler ça de temps en temps. Surtout quand on a connu le Père Sertilange, parce que le Père Sertilange, c'était quand même un personnage assez particulier, assez extraordinaire, sous beaucoup d'aspects, le Père Sertilange, c'est ça, un homme très curieux. Et c'était celui qui avait dit dans la Madeleine, quand sa père avait demandé que la guerre puisse s'arrêter, et alors du haut de la chaire, traite ma père, non, nous n'arrêterons pas la guerre. Il continue avec force, parce que sa père avait demandé que la guerre puisse s'arrêter, c'est vite la guerre de 14. Et le père Sertilange a pris par sa fou d'orateur, il est très un excellent. Et en même temps, un patriote de ce temps. Petit Savoyard. Son père était artisan. Et il avait un sens du pays qui était assez extraordinaire, qui était très beau. C'est toujours sur ce point-là qu'on pouvait voir ce qu'il y avait de plus vrai dans le Père Sertilange. Et alors, il s'était fait à ce moment-là taper sur les doigts violemment. De sorte qu'elle ne pouvait plus prêcher à Paris. Elle avait, pendant de longues années, elle n'avait plus prêché à Paris. Parce qu'elle avait fait cette sortie à Notre-Dame, à la Madeleine. Le Père Sertilange, tant qu'il était professeur de théologie morale. Et alors, il y avait un jeune père. Plus exactement, la catégorie des jeunes pères, c'est une catégorie très spéciale, la catégorie des jeunes pères. Surtout ce soir, parce que les jeunes pères continuaient de faire encore un an d'études, alors ça faisait une catégorie spéciale. Et forcément, ils avaient un peu plus peine d'obéir que les novices. C'est forcé, c'est ça la catégorie des jeunes pères. Quand on parlait des jeunes pères, on savait très bien ce que ça voulait dire. C'est que ça fait pas mal de peine à obéir, parce qu'ils croyaient que c'était déjà arrivé. Alors, les jeunes pères avaient fait toute une campagne pour élire un prieur jeune. J'étais au seul choix, tu vois, à ce moment-là. Et je ne faisais plus partie de la catégorie des jeunes pères. Élire un prieur jeune. Parce que jusque-là, les prieurs étaient quand même... On a eu un prieur à partir de 50 ans. Et surtout la prière de couvent, de formation. Il fallait au moins qu'il ait de l'expérience, une grosse expérience apostolique. Et puis là, un tournant, on avait élu un tout jeune. Alors tous les jeunes pères se frottaient les mains, disant, c'est merveilleux. Alors l'un se précipite sur le père Sertilange, dit, mon père, ce sera merveilleux maintenant. C'est merveilleux, c'est d'avoir appris, vous allez nous comprendre. Le père Sertilange s'est redressé. Elle dit, ah, vous n'êtes pas fier. Pas fier. Non, vous n'êtes pas fier. Vous obéissez à un homme que vous avez choisi. Moi, ça m'est égal qu'il soit brillant. Ça m'est totalement indifférent. Que je m'entende bien avec lui, que ce soit plus difficile. C'est du contingent. On obéit à l'envoyé de Dieu. Ça, c'était bien. Sertilange. On obéit à l'envoyé de Dieu. Et c'est beau, et c'est grand, et c'est vrai. Alors chaque fois qu'on critique le prieur, ou supérieur, on critique Dieu. Mais alors le vœu d'obéissance, il en prend un petit coup. On doit faire attention, ça veut se rappeler ça, ça fait partie du vœu d'obéissance, parce que le vœu d'obéissance, c'est une coopération du supérieur et des autres. Et dès qu'on critique, ben oui, on se met dans une position qui est fausse. Au point de vue de notre vie religieuse, on se met dans une position fausse. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. petit moment après. Ça, c'est loyal, c'est vrai. On ne le dit pas aux autres. C'est comme ça quand le murmure s'engendre. Vous savez bien, le murmure des hippopotames, hein. Cette espèce de communauté sous-jacente, parallèle. Je crois que vous êtes très attentif à ça, parce que on est hyper critique. On est hyper critique. On a des années, des siècles de critiques sur le dos. Depuis Descartes, on a vu ça. Depuis Kant. Alors, quand ça prend, on critique. Et alors, ça va contre l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la perle de la vie religieuse. Hein. Puisque c'est par là qu'on est holocauste. Alors, dans la communauté Saint-Jean, comme tous les supérieurs sont jeunes, sauf celui qui n'est pas jeune. Alors, autrement, les autres sont tous jeunes. Presque tous. Il faut qu'on fasse grande attention à comprendre que les supérieurs. Je dis ça, c'est parce que il y a une grâce de renouvellement de nos voeux par ceux qui feront profession perpétuelle. Et il faut qu'on comprenne. Ça met du temps. Ça met du temps. Et c'est difficile. C'est difficile vraiment de venir. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'obéir vraiment, d'obéir d'une façon qui soit une obéissance filiale. Une obéissance où il y a une coopération. Une obéissance où vraiment c'est quelque chose de grand et qui édifie l'Église, qui édifie la communauté. Mais quand on se met à critiquer une communauté, on ne voit pas qu'en critiquant, on est soi-même coupable que la communauté ne marche pas. Parce que dès qu'on critique, on rompt l'harmonie et l'unité. Alors, comprenons bien que les vœux sont d'abord et en premier lieu des armes contre les trois grandes concupiscences. C'est une manière très importante de voir les vœux. On peut voir les vœux qui font de nous des serviteurs de Dieu. Et les trois vœux sont faits pour être des serviteurs qualifiés de Dieu. Les trois qualités des serviteurs. N'oubliez jamais ça. C'est dans l'Écriture, ça, c'est pas. C'est l'Esprit Saint qui nous le dit. Serviteur fidèle, serviteur doux, serviteur pauvre. Bien, nos vœux font de nous des serviteurs qualifiés. Si nous vivons nos vœux, serviteurs pauvres, on comprend très bien. Serviteurs fidèles, la fidélité, question de conscience. Donc c'est le vœu de chasteté. Une âme virginale, c'est une âme fidèle. Et puis l'obéissance fait de nous des êtres doux. L'obéissance nous empêche de devenir partisans. Et dans les communautés, il y a quelquefois des partisans. Partisans pour telle ou telle chose dans la communauté. Partisans par rapport à la liturgie. Partisans par rapport au chant. Partisans par rapport au... C'est curieux comme on est vite partisans. Parce que sans doute que notre politique française est partisane. Et ça dit. Alors il y a des petits Mitterrand. Il y a des petits De Gaulle. Ça pousse très vite, c'est extraordinaire. Et là, on est partisans, un petit clan. Ça, je crois qu'aussi, vous voyez, ça tue l'obéissance. On ne doit pas, on est un seul corps unique. Vous voyez, comme l'obéissance est importante, parce qu'elle enlève l'esprit de partisan, parce qu'on est un avec le supérieur. Et on réalise quelque chose qui fait l'unité. Nos vœux. Fait de nous des enfants de Dieu. Vous voyez, l'aspect défense, l'aspect serviteur et l'aspect enfant de Dieu. Et je crois que c'est très très important de toujours voir ces trois niveaux de nos vœux. Des enfants de Dieu parce que on est enfant de Dieu par la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt parler des vœux, des conseils évangéliques, que des vœux de religion. La vieille terminologie des vœux de religion, ça c'est pour qualifier le serviteur. Tandis qu'aujourd'hui, il vaut mieux dire les vœux des conseils évangéliques. Et c'est vrai, c'est au niveau des conseils évangéliques. Ça va jusque-là, les vœux. C'est donc lié aux vertus théologales. Et c'est important de comprendre l'aspect théologal de nos vœux. Alors évidemment, c'est pas théologal au sens immédiat, dans le sens des vertus théologales. Mais c'est au service des vertus théologales. C'est pour permettre aux vertus théologales de s'exercer d'une manière plus divine. Et c'est en ce sens-là que nos vœux permettent à l'enfant de Dieu qui est en nous de s'épanouir. Vous voyez bien le vœu de chasteté qui nous fait entrer dans l'esprit de virginité. C'est la foi. Le vœu de pauvreté qui nous fait entrer dans la béatitude des pauvres. L'esprit de pauvreté, c'est lié à l'espérance. L'espérance ne peut s'épanouir pleinement que si on est pauvre. Il n'y a que les pauvres qui espèrent. Chaque fois que vous manquez un peu d'espérance, c'est un manque de pauvreté. Cherchez bien, vous verrez le fondement. C'est un manque de pauvreté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous avez eu un projet de votre vie religieuse. Vous aviez dit, moi, je suis fait pour ça. Puis pratiquement, c'est pas ça qui se réalise. Alors la pauvreté permet de maintenir l'espérance en nous, l'espérance des pauvres. Puis alors, l'obéissance, voyez bien, c'est la charité. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Si vous m'aimez, le grand levier. C'est important, voyez, d'entrer dans cette théologie de nos vœux. Ça, on peut la faire soi-même. C'est très beau de voir ces trois niveaux et de temps en temps, en face de Jésus, voir si on est fidèle à la lutte. On est engagé dans la lutte. La vie religieuse ne nous met pas du tout à l'arrière-plan, au contraire. Je crois que par la vie religieuse, on dit à Jésus qu'il peut nous mettre en première ligne. C'est pour ça que la vie religieuse fait fatalement de nous des chrétiens qui acceptent de lutter plus que tous les autres. Et ça, c'est vrai. Je crois que la vie religieuse fait des chrétiens qui acceptent la spiritualité des parachutistes. On est des parachutistes du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on accepte d'être en première ligne avec des armes légères. On accepte d'être parachuté là où veut le Saint-Esprit, sans avoir nos plans à nous. Et c'est vrai que la lutte est particulièrement forte dans la vie religieuse. C'est comme ça. La vie religieuse n'est pas faite premièrement pour l'efficacité, vous savez bien. Elle est faite pour que notre cœur soit uni au cœur de Jésus crucifié. C'est pour ça la vie religieuse. Et c'est pour ça que la lutte sera particulièrement forte chose que par nos voeux. Nous soyons un peu des partenaires pour l'Église. Et donc on attire la foudre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. On attire la foudre. On est des partenaires pour les chrétiens qui sont proches de nous. Alors les jeunes étant armés doivent accepter cela. Quand on vous met dans un milieu que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal et que vous devez évangéliser, que vous évangélisez mal, le Seigneur permettra que vous luttez silencieusement pour tous ceux qui sont auprès et par là vous réparez toutes les bêtises que vous avez faites au point de vue apostolique. C'est vrai, on répare beaucoup de cette manière-là, parce qu'on porte silencieusement. La vie religieuse doit normalement faire de nous, ce que je vous ai tout à l'heure, des ouvriers spécialisés, et puis des enfants de Dieu. Pour nous, il y a une note particulière. Tout ça existe, hein, pour nous, pour chacun d'entre nous. Ne restez pas trop longtemps dans votre méditation sur les vœux, sur l'armure, sauf si vous êtes en plein combat. C'est possible. Parce que le Saint-Esprit sera peut-être parachuté sur le trône de Satan, comme il dit dans l'Apocalypse. Alors, c'est pas très drôle d'être parachuté sur le trône de Satan. Ça arrive. Si le Saint-Esprit nous avertissait, ça irait, mais il nous avertit pas. Puis on se dit, mais comment ça se fait? Des luttes. J'ai l'impression d'être beaucoup moins vertueux qu'avant. Avant d'entrer, c'est extraordinaire. On me regardait comme quelqu'un de très vertueux. Et maintenant, je suis bien obligé de reconnaître que je ne suis pas du tout. Parce qu'on porte. Dans la lutte, on s'aperçoit qu'on est faible. Quelqu'un qui ne lutte jamais, il croit qu'il est fort. Tandis que quand on lutte, ben on s'aperçoit qu'on est faible. Parce qu'on est blessé. Alors quand la lutte est très forte, quand la lutte est à son paroxysme, on est comme d'avoir une situation limite, on ne sait plus, alors on s'aperçoit de notre faiblesse. Donc normalement, on ne doit pas trop regarder cet aspect de lutte, mais c'est quand même bon de se le rappeler. Que la vie religieuse doit nous fortifier pour la lutte. Et qu'on doit être, qu'on doit accepter dans la vie religieuse de lutter plus que les autres. C'est pas une sinécure, vous voyez, la vie religieuse. Quand vous pensez à une mère de famille qui a 4 ou 5 enfants, vous voyez la nuit qu'elle passe. Et nous, quelquefois, j'ai pas bien dormi cette nuit, vous voyez. Alors on va demander de continuer un peu de somnoler pendant la journée. Ça peut arriver, ça. Il y a un manque de force. Il faut avoir cette force, il faut l'acquérir. Surtout quand on est jeune, quand on est plus âgé, c'est plus difficile. Si on l'a pas acquis quand on était jeune. Il y a ce côté, vous voyez, sportif de la vie chrétienne. Il y a un côté sportif de la vie chrétienne. Saint Paul prend toujours ces comparaisons-là. Et ce côté sportif de la vie chrétienne fait que, oui, les religieux doivent être pour le Christ des sportifs. Alors, Dieu peut très bien nous enlever la santé. Il y a une manière sportive d'être patient. Il y a une manière sportive d'encaisser. Alors, ça dure longtemps, là, de ne pas désespérer, continuer de lutter. Parce que la lutte se prend dans deux sens différents. Pour nous, c'est le mystère du sacerdoce de Jésus. Je crois que dans l'Église, c'est ce qui caractérise la communauté Saint-Jean. C'est d'être lié. On le verra progressivement, hein, ces choses-là. C'est d'être lié au sacerdoce de Jésus. Et revenir tout le temps au sacerdoce du Christ. Et si on a découvert ça, on a découvert, je crois, le secret que Marie veut nous faire comprendre et veut nous confier. Marie nous demande de porter le sacerdoce du Christ. La communauté Saint-Jean est née au moment l'Esprit Saint s'est atteint. Et si, de fait, l'Esprit Saint a voulu que la communauté Saint-Jean existe, c'est pour répondre divinement à cette crise sacerdotale. On peut pas trop le dire. Faut le dire à vous. On peut pas trop le dire, vous comprenez? Parce qu'alors tout de suite on dira, vous êtes... Ah, vous voulez réformer les séminaires. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est un plan bien plus profond. C'est un plan divin, vous comprenez bien? C'est le sacerdoce de Jésus, c'est pas... On n'est pas là pour donner des recettes pédagogiques. Puis dire voilà ce qu'il faut, il faut vendre ces petits hameçons, alors vous aurez beaucoup de vocations. Des petits poissons rouges, vous savez, ça attire. Alors comme ça, vous aurez des vocations. Je dis, mais pourquoi avez-vous des vocations? Des questions, comment se fait-il que vous avez des vocations? Il faut être bête à ce moment-là, c'est pas du tout pourquoi. Alors quand on répète indéfiniment, on ne sait pas pourquoi. Et alors on répond, et vous, pourquoi vous n'en avez plus? C'est ce qu'il faut répondre tout de suite. C'est plus facile de comprendre le négatif que le positif, vous savez, dans l'ordre des choses divines, comme dit saint Thomas. Parce que dans les choses divines, le positif est très difficile à comprendre. Alors à ce moment-là, on ne pose plus la question. C'est vrai, je crois. Auprès de Marthe, c'est toujours, toujours ce que j'ai ressenti. C'était pour ça. Et c'est pour ça que la communauté s'appelle Saint, la communauté Saint-Jean. Parce que c'est Saint-Jean qui, parmi tous les disciples du Christ, a le mieux compris le sacerdoce de Jésus. On le disait encore tout à l'heure, hein, le père Daniel faisait une petite remarque sur Saint-Jean. J'espère que vous l'avez bien entendu. Que c'était le plus lié à la classe sacerdotale parmi tous les apôtres. Et c'est vrai, il y a un lien très très fort. Ça ne veut pas dire que tous de la communauté Saint-Jean doivent être prêtres. Non. Parce qu'il y a une double manière de vivre du sacerdoce. Si Dieu nous donne le sacerdoce, si Dieu nous donne, voyez bien, si on reçoit le don du sacerdoce, si on reçoit cette charge du sacerdoce, si on reçoit ce don que Jésus veut nous donner, on doit user de ce don d'une manière très particulière. Et si Dieu nous demande d'en faire le sacrifice, on doit avoir le désir du sacerdoce. Comme la petite Thérèse, comme, je crois, tous les grands saints qui n'ont pas été prêtres et qui pourtant avaient le sens du sacerdoce. Avoir un sens mystique du sacerdoce pour vivre du sacerdoce par le désir. Pour que le sacerdoce soit vécu dans la communauté Saint-Jean et soit vécu dans l'Église d'une façon beaucoup plus profonde, qui aille beaucoup plus loin. Je crois que pour nous, notre vie religieuse, c'est pour qu'on soit enfant de Dieu, mais qu'on soit enfant de Dieu de cette manière très particulière, comme le Fils bien-aimé, qui est grand prêtre, qui est prêtre, la médiation sacerdotale de Jésus. Je crois qu'elle doit être vécue avec une très grande intensité dans la communauté. Et nos sœurs apostoliques et nos sœurs contemplatives doivent vivre cette soif du mystère du sacerdoce de Jésus. Elles ne revendiquent pas, ce ne serait pas le lieu, on aurait pu entrer dans une autre congrégation pour revendiquer. Elles ne revendiquent pas, mais elles en ont soif, c'est normal, elles en comprennent la grandeur. Et elles en ont soif pour toute l'Église. Et elles en ont soif pour leurs frères. Et elles portent par le désir leurs frères, comme les frères qui ne seront pas ordonnés. Et je souhaite qu'il y en ait qui ne soient pas ordonnés. Pour qu'il y ait ce désir plus intense dans l'Église et dans la communauté. Ce désir, vous voyez, comme une communion spirituelle, comme le baptême spirituel. Avoir cette soif pour leurs frères et pour qu'ils vivent. souvenir de l'Apocalypse, nos voeux nous unissent à l'état victimal de Jésus et au sacerdoce de Jésus. Et si nous faisons des voeux, c'est pour cela. C'est pour vivre plus pleinement le mystère du sacerdoce de Jésus. Et je suis sûr que faire des voeux dans ces conditions, ça réjouit le cœur sacerdotal du Christ. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour que le sacerdoce du Christ soit plus vivant dans l'Église. C'est de nous consacrer totalement. C'est de nous consacrer jusqu'au bout. C'est de rien garder pour nous. Et vous voyez, quand la vie religieuse à certains moments peut nous paraître un peu dure, un peu lourde, quand le contexte dans lequel nous sommes peut nous paraître un peu lourd, un peu difficile, comprenons tout le temps et tout de suite que c'est pour vie du sacerdoce de Jésus qu'on a accepté cette vie difficile. Plus difficile qu'une autre vie, c'est vrai. Une vie qui réclame tout et le don total de tout. Et ceci pour que le mystère du sacerdoce de Jésus soit plus vécu dans l'Église.